Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. L'Angleterre eut au cours de son histoire un roi qui fut complètement normal durant les 30 premières années de son règne et complètement fou les 30 suivantes. Oui, cela paraît à peine croyable, mais ce roi qui à la cinquantaine sombra dans la folie du jour au lendemain a bel et bien existé. Il s'agit de George III. Durant 59 ans, il fut le souverain de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'une des plus grandes puissances européennes qui, à partir de 1801, devient le Royaume-Uni. Mais comment un tel pays peut-il être gouverné par un fou? Et d'ailleurs fou, ce roi l'était-il vraiment? Dans ce nouvel épisode en deux parties, je vous propose de nous retourner sur le règne long et très agité du roi George III d'Angleterre.
Sa Majesté se lève à 5 heures du matin et allume elle-même sa bougie à la veilleuse qui brûle toute la nuit dans sa chambre. Le roi s'habille lui-même. À 6 heures, il va à la chapelle où il dit ses prières du matin de la façon la plus édifiante. Il monte à cheval pendant 2 ou 3 heures pour prendre de l'exercice et l'air pur. Ensuite, il lit un livre religieux ou un traité de morale jusqu'à l'heure où ses ministres viennent le consulter sur les affaires de la nation. Pour le souper, il prend une croûte de pain et un verre d'eau.
Oh, quel bon roi que voilà! Honnête homme, bon mari, frugal, chaste, travailleur inlassable, profondément pieux. Un roi que la presse part de toutes les vertus, en tout cas au début de son règne. Et de fait, George III est né sous de bons auspices. Lorsqu'il voit le jour, le 4 juin 1738, il est le premier roi d'Angleterre, issu de la très germanique maison de Hanovre, à être né sur le sol britannique et le premier à adopter l'anglais comme première langue, là où son grand-père avait besoin d'un interprète pour s'adresser à ses sujets. George le proclame lui-même haut et fort à son peuple.
« Born and educated in this country, » I glory in the name of Britain.
Ce qui, en français, signifie « né et éduqué dans ce pays, je trouve ma gloire dans le nom de l'Angleterre ». Il a écrit « Britain » plutôt « Kingland » pour ne pas froisser ses amis écossais. Mais en fait, selon l'écrivain André Mauroy, il est bien anglais d'aspect, de manière, de langage et de caractère. Et le Hanovre, pour lui, n'est plus qu'un souvenir de famille. Lorsqu'il monte sur le trône en 1760, le peuple britannique est en liesse et attend beaucoup de lui. La fin d'une guerre ruineuse avec la France et l'Autriche, l'essor du commerce maritime et la mise au pas des colonies américaines. Dans les premiers temps de son règne, George III connaît donc une extraordinaire popularité. Profondément pieux, il peut passer des heures à prier. George III a des goûts très simples. Il est particulièrement frugal et sobre. Économe, il réduit son train de vie au maximum et s'attelle à mettre fin au gaspillage de tous ordres. Cela va d'ailleurs parfois un petit peu trop loin lorsque, par souci d'économie, il fait interdire le chauffage des serres de Kew, laissant ainsi mourir tous les orangers qui faisaient la joie des promeneurs. George considère que tout le monde doit faire comme lui et savoir se contenter de peu. Surveillant très étroitement ses comptes, il n'augmente quasiment jamais ses domestiques et décide également de supprimer les pourboires. Mais s'il a des oursins dans les poches, il traite cependant ses gens avec bonté, parle volontiers avec eux, et ne s'offusque jamais des libertés de langage qu'ils prennent avec lui. Bien souvent, il se promène incognito et lors de ses longues promenades dans la campagne, entre à l'improviste dans une chaumière, s'installe sans façon au foyer, bavarde avec ses occupants et laisse quelques pièces en partant. Il fait installer dans le parc de Windsor un moulin, où les paysans les plus pauvres peuvent faire venir moudre leurs grains gratuitement. C'est l'un des paradoxes de ce roi. Économe dans les petites choses, il est prodigue dans les grandes puisqu'il donne des sommes astronomiques sur sa cassette personnelle à des organisations charitables. Comme son homologue français Louis XVI, le roi Georges III se passionne pour les explorations géographiques, la recherche de terres nouvelles, de produits nouveaux. C'est sa curiosité qui va permettre à l'Angleterre de s'emparer la première des principales voies maritimes du globe. Et c'est sous son patronage que le capitaine Cook part pour Tahiti et que Samuel Wallis va faire le tour du monde. Il a été le premier souverain britannique à recevoir un enseignement scientifique. D'ailleurs, sa collection d'instruments scientifiques et mathématiques est aujourd'hui exposée au Musée des sciences de Londres. Passionné d'agriculture, au point d'adresser des articles sous pseudonyme aux annales de l'agriculture, il est capable d'interrompre sa promenade à cheval s'il aperçoit un beau cochon dans un enclos. Un jour, au cours du discours du trône, alors que la guerre fait rage en Amérique, il entretient longuement le Parlement de son inquiétude au sujet de la maladie des bêtes à cornes. Un incident qui lui vaudra le surnom de Farmer George, George le fermier. Le problème, c'est que le soin méticuleux qu'il accorde à la gestion de chacun de ses dossiers lui en fait négliger d'autres, bien plus importants. Avec des goûts aussi rustiques, Georges III est évidemment plus heureux à la campagne qu'à la cour, dont l'étiquette est alors d'une grande sévérité. Le protocole exige en effet que l'on s'éloigne de lui à reculons, qu'on ne le regarde jamais dans les yeux et qu'on ne lui adresse jamais la parole en premier. La vie quotidienne à la cour est d'une désespérante monotonie. Hormis quelques belles fêtes de temps en temps, tout y est rigide, compassé. En présence de la reine, nul n'a le droit de s'asseoir. Et chacun, y compris ses propres fils, doit donc rester debout, telle une potiche, aussi longtemps qu'il plaira à la reine de faire salon. La reine, justement. Charlotte de Mecklembourg-Strelitz, née le 19 mai 1744. Petite, plate, insignifiante, sans beauté, sans culture. Elle va donner 15 enfants à Georges, qui fait sa connaissance le jour même de leur mariage. Ils formeront un couple uni. Georges III lui sera parfaitement fidèle jusqu'au bout, moins d'ailleurs par amour que par sens du devoir. À son propos, l'Autrichien Bombel note dans son journal en 1784
« Le 16 décembre, à Londres. Je ne sais plus qui a dit que la grâce était plus belle que la beauté, mais on en sent la vérité en voyant la reine d'Angleterre. Elle est laide dans tous ses traits, elle plaît dans son ensemble. »
Contre toute attente, les goûts modestes du roi suscitent plus de critiques que d'admiration. Aux yeux des puissants, il est un pingre dont la vie bourgeoise et rangée est tout bonnement abominable. Car l'époque est à la dépense, au jeu, à la prodigalité, à la dissipation, au plaisir et au cynisme. Londres est un gigantesque casino où d'immenses fortunes se perdent chaque soir entre deux banquets. Ramener leur maître ivre-mort chez eux fait partie du quotidien des domestiques londoniens. Illustration caractéristique de cette vie bourgeoise et rangée que l'on reproche au roi, la pratique du terracing. Il s'agit pour le roi de se promener en famille au beau milieu du public sur l'une ou l'autre des grandes terrasses qui s'étendent le long des façades du château de Windsor. Pour tous les membres de la famille, c'est là une corvée dont on se passerait bien, en particulier pour la reine. Mais on ne peut y échapper. Il faut donner l'image d'une monarchie à la fois impressionnante par sa mise, ses apparences, et accessible au public.
La petite princesse Amélia, âgée de 3 ans, pouvait certes s'amuser à parader à la tête de la famille royale, mais l'aînée se plaignait d'être ainsi forcée de marcher sur la terrasse les dimanches soirs en rémission de nos péchés.
Tout bien considéré, entre sa passion pour les bêtes à cornes, les livres, les règlements militaires et les boutons d'uniforme, sa flûte à bec, le terracing et son affreuse bigote de femme à laquelle il est sinistrement fidèle, voilà un roi qui décidément ne comprend rien à son époque. By Jove, this king is so old-fashioned. Ce roi est tellement vieux jeu, doit-on murmurer sous cap dans les soirées londoniennes. Jamais la vertu n'a paru aussi boring, comprenez, rasoir. Georges III prend son rôle de roi très au sérieux et s'y consacre avec ardeur, nourri de la doctrine exposée par le philosophe britannique Henry St. John.
Le roi patriote doit régner et gouverner. Pourquoi obéirait-il aux ordres d'un cabinet, de quelque grande famille, d'un parlement qui ne représente pas le pays ? À lui, au contraire, de devenir, contre les oligarchies, le champion de ses sujets. Sur lui, les yeux de tout un peuple sont fixés, remplis d'admiration et brillants d'affection.
Cette doctrine, en l'incitant à établir un pouvoir personnel, supposait qu'il soit capable de mater le Parlement et l'exposait donc à de graves conflits avec lui. Pour cela, il aurait fallu un peu de sens politique et de souplesse, toutes choses dont, hélas, il ne possède pas une once. Bien au contraire, il considère comme une rébellion insupportable toute opposition à sa volonté. Oui, sous des dehors bonhomme, Farmer George est vaniteux et vindicatif. Doté d'une intelligence médiocre et rancunier, il aimait d'ailleurs à dire
« Ce que je n'oublie pas, je ne le pardonne pas. »
Il va par ailleurs trouver face à lui tout au long de son règne des politiciens parmi les plus brillants de l'histoire de l'Angleterre, comme William Pitt, Pitt le Jeune, et James Fox, représentant des Whigs, cette puissante oligarchie qui tient ses propres intérêts pour ceux de l'Angleterre. Loin de reprendre les choses en main, le roi va donc tout au contraire, par ses maladresses et son incompétence, fonder à jamais l'omnipotence ministérielle. Sous son règne, la situation intérieure ne cessera de se dégrader. Il se refuse à accepter la situation aux Amériques. Le 4 juillet 1776, jour de la déclaration d'indépendance des États-Unis, il écrit dans son journal « Nothing important happened today ». Autrement dit, rien d'important n'est arrivé aujourd'hui. On pense irrésistiblement au journal du souverain qui gouverne alors la France, Louis XVI. Louis XVI, le 14 juillet 1789, écrivait dans son journal « Rien ». Mais pour Louis XVI, il s'agissait d'un journal de chasse. Il n'avait tout simplement rien pris, rien attrapé ce jour-là. Alors que pour George III, il s'agit vraiment de transcrire dans son journal les événements majeurs du jour. Et à ses yeux, l'indépendance des États-Unis n'en est pas un. Il ne veut rien savoir. Pourtant, après l'indépendance des États-Unis, il n'a plus de majorité au Parlement et il s'en faut de très peu pour qu'il ne perde sa couronne. L'esprit de révolte qui règne aux États-Unis gagne l'Angleterre, donnant lieu à de graves émeutes à Londres. En de telles circonstances, un James Fox, le brillant adversaire de William Pitt le Jeune, aurait pu devenir pour le roi un remarquable instrument. Mais le roi réprouve tellement son genre de vie, ses paris absurdes, ses amours tapageuses, qu'il préfère se passer de ses services. Dès lors, Fox va se vouer corps et âme à la cause de l'opposition. Le royaume connaît alors une grande instabilité sur fond de scandales parlementaires. Au moment même où l'ordre semble rétabli, survient la nouvelle de la défaite de Yorktown, qui entraîne la capitulation de l'Angleterre en 1781. George III s'entête à vouloir écraser la rébellion dans les colonies, alourdissant encore une dette humaine et financière déjà insupportable, alors que Pitt le Jeune souhaite au contraire promouvoir l'indépendance. Et l'avenir lui donne raison. Les colonies américaines deviennent un État souverain, ce qui met George III au désespoir. Il ne pourra s'empêcher de pleurer en voyant le jeune ambassadeur de la Nouvelle République venir lui remettre ses lettres de créance. Bref, en 25 ans de règne, et malgré toute sa bonne volonté, il n'a réussi qu'à mener son royaume au bord de l'abîme. Perte de l'Amérique, corruption scandaleuse aux Indes, humiliation par la France, qui au terme du traité de Versailles récupère en 1783 les territoires perdus 20 ans auparavant, notamment ses comptoirs en Inde, Gorée et le Sénégal, Dunkerque, la Martinique et la Guadeloupe. Et enfin, toute puissance du parti Whig au Parlement. De tous ces échecs, George III porte seul la responsabilité. Sa tentative de pouvoir personnel s'achève en désastre. Dans ce contexte, la popularité dont il jouissait au début de son règne n'est plus qu'un très lointain souvenir. Désormais, on le brocarde, on le chantonne, on le calomnie dans d'infâmes pamphlets. Et les caricaturistes reproduisent à cœur joie sa silhouette alourdie, ses yeux globuleux et son menton effacé dans la graisse. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit et raconté l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour la seconde partie de mon récit Au cœur de l'histoire consacré à George III d'Angleterre.